Allez, on ouvre la parole de Dieu ensemble. J'allais dire Matthieu, ou Matthéo, hein, comme vous voulez. Matthieu, hein, chapitre 11, verset 1er. Je présentais tout à l'heure, quand je lui disais, quand il mettait les notes, j'ai dit Matthieu. Après, il y a Juan, hein, Jean. Voilà. Mais déjà, Matthieu, chapitre 11, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, dont c'est Jean le Baptiste, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. » Donc Jean-Baptiste, c'est celui qui a dit, « Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Et il rajoute, en le pointant du doigt, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Et bien sûr, il désignait Jésus, le montrait du doigt. Il, quelque part, a bien donné clairement un message en disant « Détournez les regards de moi, je ne suis qu'un homme. Lui, il est le Tout-Puissant. » Alléluia. Alors, premier texte que nous avons lu, donc dans l'évangile de Matthieu, nous voyons là Jean-Baptiste sous un nouveau jour, un jour particulier. Ça peut nous arriver à chacun. C'est quelque part, il est dans le doute, il est dans l'expectative, puisqu'il envoie des hommes tout simplement pour lui rendre compte. Est-ce que ce que j'entends est vrai? Est-ce que c'est une certitude? Est-ce que c'est bien lui? Parce que lui-même avait annoncé que, eh bien, il viendrait celui qui, quelque part, eh bien, sauverait l'humanité. Hein, il en avait parlé, et quelque part, il était le précurseur du Messie. Alors, il a lui-même baptisé Jésus par immersion à Énon, où il y avait là beaucoup d'eau, comme dit le texte. Et là, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est que le Père a rendu témoignage, tout simplement, eh bien, là aussi, de l'approbation qu'il avait sur Jésus, puisque, eh bien, il va parler, il va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et bien sûr, le Saint-Esprit, eh bien, comme il est dit dans l'Écriture, est descendu sur lui d'une manière corporelle, sous la forme d'une colombe. C'était le signe du témoignage. Il y avait là l'approbation de Dieu, il y avait là une manifestation particulière. Vous voyez, mais malgré ça, Jean se posait des questions. Est-il celui qui est annoncé dans les Écritures? Est-il le Messie? Est-ce que c'est lui le Sauveur? Vous voyez, parce que le temps passant, il peut nous arriver aussi à nous d'avoir une promesse, d'avoir des certitudes et de les voir s'émousser au fur et à mesure. Ça peut arriver également à quelqu'un d'être dans le doute et de ne plus savoir. Alors le temps passe et voilà que Jean se retrouve, lui, en prison. À cause de quoi? Eh bien, à cause de la vérité. Vous savez, la vérité, des fois, elle nous coûte, hein. Et là, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le roi Hérode, eh bien, Jean va désapprouver quelque part eh bien, cette union illicite entre Hérode et Hérodias. Hérodias, c'était la femme de son frère. Vous voyez un petit peu, donc il va le faire même savoir publiquement. Hein, ce que fait le roi n'est pas bien. Et lui qui est le personnage public numéro un, il devrait quand même faire attention à ce qu'il fait. Il ne devrait pas faire cela. Parce que quelque part, il induit en erreur le peuple. Enfin, donc, voyez un petit peu, donc Jean, quelque part, eh bien, il avait des arguments, il le fait savoir publiquement, il ne se cache pas. Et le voilà dans l'épreuve. Vous voyez, comme quoi la vérité, quelquefois, elle nous conduit. Eh bien, elle peut nous conduire en prison. Hein. Il est là, du sein de sa prison. Il va douter, il va poser, bien sûr, cette question ultime. Es-tu ou est-il celui qui doit venir? Et quelque part, à Jésus, mais es-tu le Christ? Est-ce que tu peux me le faire savoir? C'est ça, hein? Alors, au sein des épreuves, des difficultés de la vie, au sein d'un monde qui s'en va droit, je dirais, à la ruine morale et spirituelle, qui ne se pose pas des questions? Quand on voit, le gars, il triche, il réussit. Et on dit, regarde, moi, je fais attention, je marche droitement, j'ai une vie équilibrée, je vis dans la vérité. Lui, il vit dans le mensonge, il réussit tout. Attention, le soleil se lève sur le juste et le bon, sur le juste et le méchant. Mais il dit que le méchant, c'est pour sa perte. Et donc, laissant le soleil se lever, hein, mais qui nous trouve juste et bon, hein, je pense à chacun d'entre nous, bien sûr. Hein. Alors, où est la vérité? Cette question-là, je pense qu'on vous l'a posée et que des personnes se la posent encore aujourd'hui. Hein. Est-il vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus, c'est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est lui le Sauveur? Est-il réellement venu sur Terre? Parce qu'on nous raconte des choses en disant que Jésus est venu, il a marché sur la Terre. Vous savez qu'un astronaute l'a dit, hein. Quand il s'est trouvé sur la Lune, il a dit, formidable, un pas de géant pour l'humanité. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais le plus important, ce n'est pas que moi j'ai marché sur la Lune, mais c'est que Dieu soit venu marcher sur la Terre. Ça, c'est le plus important. Hein. Et oui. Alors, à la question de Jean-Baptiste, es-tu celui qui doit venir? Voilà la réponse de Jésus lui-même. Alors, il n'a pas cherché à démontrer par la philosophie ou par la science, je dirais, sa suprématie divine, au contraire. Il a simplement, eh bien, agi. Vous voyez, il a fait du bien autour de lui. Amen. Et il a manifesté la puissance de son Père par des miracles, par des prodiges, parce qu'il voulait quelque part éclairer cette génération, leur montrer que quand même, s'il était capable de faire ces choses-là, oh, je sais que certains vont dire c'est par Belzébul qui chasse les démons, etc., ou qui guérit. Mais lui, il a démontré le contraire. Parce que ce qu'il a fait, c'est magnifique. Ressusciter des morts, faire voir l'aveugle, faire marcher le paralytique. Hein? On m'en parlait tout à l'heure. Hein? Dans notre passage, il nous est rapporté qu'à l'heure même, au moment où il se passe là, eh bien, il guérit plusieurs malades de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il va rendre la vue à plusieurs aveugles. Vous voyez un petit peu? Jean-Baptiste est toujours dans l'expectative. Il est dans sa prison, il se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment lui? Alors Jésus va dire aux envoyés de Jean, allez, simplement, allez, et rapportez ce que vous voyez, ce que vous entendez. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Les aveugles voient. Et là, si on fait un parallèle, notre monde, quelque part, il est plongé, lui aussi, dans les ténèbres. Il est quelque part frappé de cécité. Regardez autour de vous. Quand vous commencez à parler de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il a pété un câble. Il est un peu zinzin, le gars. Hein? Bon, il est gentil, hein? Bon, il est gentil, hein? Mais, voyez un petit peu, moi, ce que je constate, c'est que malgré le progrès apporté par la science, on dit qu'on peut répondre à tout, c'est vrai, mais il y a des maladies nouvelles qui surgissent. Aujourd'hui, on est confronté à des problèmes de pollution et qui déséquilibrent, eh bien, tout simplement, l'écologie de notre planète. Vous voyez, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on... sur le bassin de Foss, je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai entendu moi, hein. Et oui, donc il y a des choses terribles qui sont provoquées tout simplement par l'homme. Alors il y a également des différences terribles au niveau de vie, je dirais, ça se constate de plus en plus. Avant on parlait d'un pays à un autre, par exemple on dit pays sous-développé. Ouais, c'est normal, ils sont sous-développés. Vous voyez? Mais aujourd'hui même au sein de la société, aujourd'hui si on voit tous ces gilets jaunes, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même, il y a un décalage. Hein. Et oui, le niveau de vie n'est pas le même pour les uns et pour les autres. Hein. Alors oui, les hommes cherchent des solutions. Ils aimeraient en trouver, bien sûr, hein, je pense, hein, mais ils n'en trouvent pas. Et il n'y a pas de réponse parce que, quelque part, il manque la lumière, la clairvoyance. Et oui, je dis que notre société est frappée de cécité. Et ça, je dirais que c'est depuis longtemps. Hein. Depuis, eh bien, tout simplement, Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'homme a choisi de désobéir à Dieu, c'est-à-dire de tourner le dos à Dieu, de lui dire, toi, tu ne comprends rien, tu nous laisses faire. Nous, on sait, voyez. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que celui qui a commencé à aveugler les premiers êtres humains, eh bien, il continue, hein, c'est Satan. Il leur fait miroiter des mirages qu'il s'efforce, eh bien, de croire, de saisir, mais c'est comme le vent, essayez de capter le vent dans votre main. Il y en a qui ont essayé, hein. Eh bien, on n'y arrive pas. Hein. Eh oui. Et c'est un peu la même chose. On croit qu'on va y arriver, on croit qu'on va être heureux comme cela, qu'on va voir la réponse à tout, et puis ça ne marche pas. Alors Jésus a dit, ce monde, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. S'il y a là une fosse, eh bien, tous les deux, ils vont tomber dans la fosse. Quand l'apôtre Paul s'est converti, la Bible nous dit que lui qui avait été rendu aveugle pour quelque temps, il y a comme des écailles qui sont tombées de ses yeux. Vous voyez? Il a enfin pu voir quoi? lui qui se faisait un défenseur de la loi divine. Qu'est-ce qu'il va avoir en face de lui ou qu'est-ce qu'il va y avoir comme révélation pour lui? Eh bien, simplement, l'amour de Dieu. Amen. Il va voir, il va comprendre que Dieu l'aime. Il va voir également la puissance du Fils de Dieu dans sa vie. Parce que cet homme qui était capable d'approuver le meurtre, comme il a été dit ce matin, eh bien de ces hommes de Dieu, de Jésus lui-même, et qui réprouvait ceux qui croyaient en Jésus, ceux qui le suivaient, eh bien va tout simplement être touché par ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et c'est un amour nouveau, qui est né dans son cœur, un amour dont il peut constater les effets, parce que allez prier pour vos ennemis. C'est ce que fait Paul. Amen. D'autres ont prié pour lui, sa propre famille a prié pour lui, pour que lui, un jour, puisse être éclairé, voir la lumière. Amen. Alors oui, moi je le dis, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire, Jésus veut retirer les écailles qui sont sur nos yeux. Alléluia. Oui, il veut nous faire voir clair. Alléluia. Il veut faire disparaître la cécité qui empêche de voir les bénédictions de Dieu. Et Dieu nous les a envoyés tout simplement. Le fait de nous donner Jésus son fils, de nous l'envoyer. Mes amis, c'est le plus beau des cadeaux qu'il nous a fait. Vous pourriez gagner, je ne sais plus si ça existe, à la loterie nationale. Je sais qu'en Espagne ça existe, hein, parce qu'il y a des sommes importantes à engager et pour le vainqueur. Mais ça sert à quoi? Que servirait-il à un homme de gagner le monde, même le monde entier, s'il perd son âme? Hein, cette voix qui lui dit aujourd'hui même, hein, ta vie te sera redemandée, ton âme, où tu vas aller et qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Voyez. Alors oui, je dis une chose, c'est que Dieu a une réserve formidable. Amen. Plus importante que la réserve monétaire européenne. Comment ça s'appelle l'international, le mondial, je ne sais plus. C'est Madame Lagarde qui était là, ou qui est toujours, je crois. Hein, FMI, hein, plus grande réserve que le FMI. Amen. Et oui, il a une banque formidable, le Seigneur. Alléluia. C'est l'évangéliste Jean qui nous dit, en parlant de Jésus, cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Et à tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire au sacrifice de Jésus, au message de la croix, au message de l'amour de Dieu pour lui, eh bien, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. J'ai trouvé beau tout à l'heure quand tu témoignais. Ah oui. Eh oui, on est magnifique, on est beau, hein. Rendez compte, il est venu pour une première fois, il est allé pour manger, hein. Alors Jésus a dit lui-même, hein, qu'il est la lumière du monde. Il dit que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Et quelle lumière? La lumière de la vie. Alléluia. Vous avez rencontré des gens religieux? Moi, ça m'est arrivé d'en rencontrer. À Digne-les-Bains, on faisait de l'évangélisation dans la rue. Et puis, on distribuait pour inviter à une mission, là, hein, une mission d'évangélisation. Et je me trouve avec un gars qui est tout content, il prend le papier. Ah, vous parlez de Dieu? Ah, mais c'est formidable, ça! Et puis, il commence à me parler. Et puis, il me disait des choses. Moi, je lui dis, bro, vous savez, le plus important, c'est d'avoir l'assurance du ciel, l'assurance du salut. Et le gars, il s'est arrêté. Il me dit, mais qui peut le savoir, ça? Et j'ai dit, moi je le sais. Mais comment vous le savez, vous? Et j'ai dit, parce que j'ai rencontré Jésus, mon sauveur. J'ai obéi à sa parole. Je marche tout simplement d'une manière honnête en le suivant. Je l'aime plus que tout. Et il m'a dit, eh bien, tu es sauvé. Oh, c'est pas possible! Puis le gars, il m'a jeté le papier, il est parti. Vous voyez un petit peu? Parler de religion, ça lui plaisait, mais quelque part, parler de la véritable lumière. Parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la croix, c'est la mort pour le salut. Amen. Alors dans la réponse qu'il donne aux envoyés de Jean, Jésus continue en disant « Les boiteux marchent ». Vous voyez, quelque part, une vie boiteuse, c'est une vie qui est engluée dans le péché, dans le mal. Hein. Eh oui, le péché a abîmé l'humanité. Au départ, Dieu l'avait créée belle, cette humanité. Magnifique, hein? Puis, depuis, notre monde, il est semblable, je dirais, au flot de la mer, hein, instable, incertain, inconstant. Vous voyez, c'est la société dans laquelle nous vivons. Ce que nous voyons comme point de repère aujourd'hui, demain, aura certainement disparu. C'est un petit peu ça hein, qu'on voit. Un jour en haut, un jour en bas, on marche toujours à cloche-pied parce qu'on ne sait pas trop où poser nos pieds, on ne sait pas trop dans quel sens aller. Alors il n'y a aucune assurance quant au lendemain, aucune certitude quant à l'avenir. Alors le monde tâtonne. Moi je dis, il se cherche. Il se cherche. Hein. Bon, si vous êtes là cet après-midi, c'est que vous ne voulez plus que ce soit comme ça. Et pour nous, nous l'avons expérimenté. Un jour, moi aussi, je suis venu écouter l'évangile et puis ça a changé ma vie. Alors également, si on est là, c'est parce que, eh bien, on a d'autres ambitions, d'autres désirs. Amen. Est-ce que le bonheur fait partie des plans de Dieu? Est-ce que la paix fait partie des plans de Dieu? Est-ce que la joie fait partie des plans de Dieu? Mais oui. Amen. Et peut-être c'est la souffrance que vous vivez, c'est le malheur, c'est des choses difficiles, insupportables. Et Jésus vous dit, eh bien, je suis venu pour toi. Amen. C'est pour toi que j'ai donné ma vie sur le bois de la croix. C'est pour toi que j'ai souffert pour que toi tu cesses de souffrir. Pour cela, allez, remets-moi ta vie, c'est-à-dire confie-la à moi. Viens auprès de moi et dis-moi tout simplement, eh bien, je veux te donner ma vie. Fais de moi une nouvelle créature. Amen. Peut-être que vous êtes comme Jean-Baptiste dans le doute, hein, à la recherche de ce que j'ai prononcé, un peu de paix, un peu de bonheur. Vous êtes heureux. Ben, c'est humain. Qui a envie d'être heureux cet après-midi? Levez la main. Voyons, on veut tous être heureux. Hein. Eh oui, eh oui. Alors l'abbé me dit que si le Fils nous a franchis, il dit qu'on est à ce moment-là réellement libre. Vous voyez, on a franchi l'esclave, c'est-à-dire qu'on le marquait pour lui montrer que justement, il était libre. Et puis quand on le rencontrait, on savait qu'il était libre. Ça veut dire quoi ce texte-là? Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire simplement que celui qui est libéré par Jésus, c'est quelqu'un qui court dans la vie, que Dieu lui donne. C'est pourquoi, eh bien, quelque part, il faut saisir la délivrance qui nous est proposée. Amen. Saisis la vie afin que tu vives. Un jour, un homme donnait ce témoignage, tout simplement. Il prenait son baptême ce jour-là. Et puis, il dit, ce que j'ai vu, quand j'entendais le message de l'évangile, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une porte ouverte. Moi, je savais ce que je vivais. Et si je continuais à vivre comme cela, pour moi, c'était l'enfer pour toujours. Il a dit, comme j'ai vu cette porte était ouverte, je dis, moi, je passe par cette porte parce que je ne veux pas rester là. Vous voyez, c'est une image qu'il donnait. Il dit, maintenant, ça y est, j'ai franchi la porte et je sais où je vais. Je sais en qui je crois. Et je suis le plus heureux des hommes. Amen. C'est ça. Dieu est celui, justement, qui veut nous remplir d'assurance. Je sais. Et c'est ce qu'il disait. Il veut que, eh bien, il y ait des convictions en nous, tout simplement. Non pas en nous appuyant tantôt sur un, tantôt sur l'autre, sur les circonstances, sur la vie, sur le matérialisme. Non, non. Ce monde dans lequel nous sommes passe. Vous savez qu'on ne pourra rien amener au ciel. La Bible dit que nus nous sommes venus ici-bas, nus nous repartirons. Amen. Donc on ne pourra rien amener. On n'ira au ciel que si on a Jésus. Formidable, hein? C'est le laisser-passer. Mot de passe, Jésus. C'est ça, hein? Amen. Alors, avoir une vie basée, je dirais, sur le réel. Parce que ce n'est pas de l'utopie. Hein? Ce n'est pas des spilipères, comme ça s'appelle. C'est de la fiction, voilà. Je cherche le nom. Hein? C'est du réel, du concret. Amen. Mon témoignage, vous le connaissez pour certains, mais je n'étais pas du tout comme ça. Hein. Moi, on faisait ça, je rendais ça. Oui, c'était comme ça. Eh oui. Mais une vie, tout simplement, basée sur Jésus, sur la parole de Dieu, ça change tout. Amen. Alors Jésus continue et il dit aux disciples de Jean, le lépreux est purifié. L'image de la lèpre. On le prend toujours comme cela parce que c'est la réalité. Hein. C'est l'image du péché. Vous voyez, la lèpre, elle prend une toute partie de l'être humain, hein, une partie de son doigt, par exemple, et après, c'est tout le corps qui est quelque part contaminé. Et c'est ça, le péché. Hein. Il est dans le monde, et il remplit le cœur et l'esprit humain. Alors, le lépreux, pour ceux qui... Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de lépreux, parce qu'on en parle de moins en moins. Hein. Pourtant, il y a encore des léproseries, hein, bien sûr. Alors, le lépreux, lui, devait se tenir à l'écart de toute population. Et quand il marchait quelque part ou que des gens s'approchaient, eh bien, il devait crier « Impur, impur !» Oui, il agitait une clochette « Impur, impur !» Et tout le monde fuyait. Parce que pour la lèpre, il n'y avait pas de traitement. Hein. S'il y a quelques savoirs maintenant, à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, il était, lui, condamné de toute manière à mourir, bien sûr. Alors, pour lui, pas de remède. C'était une tragédie terrible, isolée, séparée de ses bien-aimés, de ceux qui l'aimaient, et séparée d'eux. Eh bien, quelque part, ainsi est le péché. C'est-à-dire qu'il nous a exclus d'une présence. Et quelle présence ? Il nous a exclus de la présence de Dieu. Amen. Peut-être vous dites, mais bon, moi, ça ne me fait rien, quoi. Mais la Bible nous dit que Dieu, c'est notre Père céleste. Vous en connaissez beaucoup de pères qui livreraient son enfant en sacrifice pour le salut de personnes qui font... Mais c'est pourtant ça. C'est-à-dire que Dieu nous a donné Jésus, son Fils, sachant que Jésus allait mourir sur le bois de la croix pour que nous qui faisons... ou alors... eh bien, nous puissions trouver la vie. Nous puissions être sauvés, pardonnés. Amen. Alors voilà, notre âme, quelque part, elle est contaminée par le mal. Un enfant, est-ce que vous lui apprenez à faire le mal ? Vous le surveillez comme le lait sur le feu. Parce que vous savez qu'il peut se mettre en danger. Il peut se faire mal. Donc vous faites tout pour l'épargner. Amen. Vous le surveillez. On était dans le salon avec mon épouse, la semaine dernière ou la semaine d'avant. On était en train de discuter. Et puis tout d'un coup, on n'entend plus Angela. On se tourne. Elle était sur sa chaise haute. Elle est montée comment ? On ne sait pas. Et elle, toute fière, elle nous faisait « ha 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 ». Elle nous avait joué un bon tour. Elle a pris une chaise. Elle est montée sur une chaise. Elle est montée sur l'autre. Et elle nous faisait « ha 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 !» Toute fière. Oui, mais on fait attention. Parce que on sait que, quelque part, il n'est pas armé pour se défendre. Amen. Un enfant, c'est ça. Hein? Eh oui. Alors, notre âme, nous, elle est contaminée. Hein? Notre corps également, qui est poussière, retournera à la poussière. Mais ça, c'est la seconde mort. Mais notre âme, la Bible nous dit qu'elle est appelée à vivre éternellement. Et la bonne nouvelle, elle est là, c'est que Jésus, justement, est venu pour purifier notre âme, notre cœur, notre esprit. Alléluia. Nous donner, quelque part, eh bien, une vie nouvelle, un esprit nouveau, un corps et une âme lavés, purifiés par le sang qui a coulé de la croix. Alléluia. C'est ça, hein, c'est ce qui s'est produit, c'est le plan de salut de Dieu. Pour revenir à la lèpre, la Bible nous dit que Jésus s'est chargé de nos péchés. Eh bien, quelque part, c'est ça. Il a pris notre lèpre, il a pris notre péché pour que nous soyons libérés une fois pour toutes. Eh bien, cette puissance terrible que le péché. Vous voyez, c'est pareil, on y met le petit doigt, et puis l'avant-bras, et puis le bras jusqu'à l'épaule, et tout le corps y passe. C'est-à-dire que quand on a commencé à y toucher, eh bien, on se perd. Amen. On est contaminé. Ainsi comme le lépreux, purifié, retrouvé sa place dans la société, lorsque nous nous repentons de nos péchés auprès de Dieu, non pas auprès des hommes, mais auprès de Dieu, si on a fait du mal, si on va dire « pardonne-moi, je t'ai fait du mal ». Eh oui, c'est ce qui s'est passé un jour, un jeune qu'on préparait au baptême, il avait, je ne sais plus combien de temps, où il a plongé dans la drogue, et puis, donc il me raconte un petit peu de la manière dont il s'est préparé au baptême. Hein, il avait dit, il faut réparer, hein, il faut aller, si on a fait du mal, il faut aller demander pardon. Si on a volé, il faut restituer. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à piquer dans le tiroir caisse de ses parents qui avaient un bar. Et puis, comme la drogue l'entraînait toujours plus bas, eh bien, sur les chantiers où il passait, parce qu'il était peintre en bâtiment. Donc, sur les chantiers où il passait, de temps en temps, ça a un peu de valeur. Hop, puis il le revendait, puis il avait sa consommation, quoi, assurée. Et puis, donc, il avait une apparence aussi un petit peu bizarroïde, quoi. Et puis, quand il a compris, quand il a donné son cœur à Jésus, eh bien, il est passé partout sur les chantiers. Et, eh bien, il avait dérobé des choses en disant « Vous me reconnaissez, c'est moi !» Oh, mais t'as changé, hein? Elle dit, oui, c'est pour ça que je viens vous voir, parce que j'ai changé. Il vous a rien manqué, Alors, il disait, bah, écoutez, voilà, moi je vous ai pris ça chez vous. Ah, mais c'est vrai. Alors, il disait, mais je suis prêt à réparer, à vous rembourser, je vais prendre le temps qu'il faut, mais je vais le faire. Et il est passé comme ça chez les gens. Et toutes les personnes chez qui il est passé, ils ont dit, écoute, laisse tomber, on préfère te voir comme ça. De savoir que, eh bien, c'est fini, tu ne touches plus à ce qui te détruit. Amen. Oui, c'est un petit peu ça, hein. Dans la présence de Dieu, nous retrouvons quelque part un sens à la vie. Nous retrouvons la beauté. Amen. Hein? C'est ce que fait Dieu quand il nous délivre au travers de Jésus, son Fils. Cette présence à nous, c'est plus la même vie. Alléluia. Jésus dit aussi, les sourds entendent. Ça, c'est quelque part un rapport avec notre conscience. Hein? À force de vivre loin de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous appelons le mal bien et le bien mal. Vous n'avez pas entendu cette réaction? Oh, mais tout le monde le fait. Je ne suis pas plus bête, hein? Mais j'aime bien le bête. Eh oui. On fait des bêtises. Mais quelque part, on veut reproduire la bêtise. On sait que c'est une bêtise, hein? On sait. C'est pas bien. D'accord? Mais alors, on appelle le mal bien, le bien mal. L'apôtre Paul appelle ça des temps d'apostasie. Celui qui marche le mieux, qui trompe son monde, allez, à outrance, celui-là, il est quelqu'un. Hein. Eh oui. Et celui qui vit honnêtement, on dit, pouf, c'est un demeuré, le gars. Il pourrait faire comme nous. Hein. Mais écoutez, il vaut mieux faire comme ça, être appelé le demeuré, ou l'illuminer, c'est bien être illuminé, hein, la beauté du Seigneur. Que quelque part, eh bien d'avoir une épée de Damoclès sur sa tête, que quelque part de se dire, mais si un jour on apprend la vérité, et de vivre constamment avec cette peur-là dans le cœur, hein? Eh oui. Alors, la société aujourd'hui dans laquelle nous vivons, et nous-mêmes également pour certains, ne savons plus discerner quelque part la voix de notre cœur, la voix de notre conscience, celle qui pourrait nous amener justement, ou nous conduire à une bonne moralité. On ne sait plus, on ne sait plus. Notre monde nous le prouve tous les jours par l'immoralité, justement quand on ne cherche même plus à cacher. C'est terrible. Hein? Moi, ma mère, quand on se parle au téléphone, j'ai un petit village, elle me dit, ah, tu sais pas ce qui s'est passé. Et puis elle m'explique, elle me raconte. Il est parti avec une fille de 40 ans de moins que lui. Oh, pétard. Lui? Eh oui. C'est pas possible, quoi. Vous voyez? Et des choses comme ça. Hein? C'est-à-dire que le monde descend de plus en plus sur la pente qui l'entraîne justement vers ce qu'on appelle le jugement de Dieu. Ils sont en train de glisser, de glisser, de glisser. Ils ne s'en rendent même pas compte. C'est celui qui fera le pire. Ah, celui-là, c'est quelqu'un. Hein? Eh oui. Alors l'apôtre Paul a écrit à un jeune homme nommé Timothée et il lui dit, garde la foi et une bonne conscience. Amen. Garde la foi. Malheureusement, on sait que certains l'ont perdu. Déjà, cette conscience, hein, ils ont fait naufrage par rapport à elle. Eh oui, parce que c'est ça. Hein. Parce que dans ce monde, que de naufrages. Que de naufrages. Hein. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Bon, puis on apprend. On dit, ah oui, je comprends maintenant. Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette entreprise? Elle marchait si bien. Ah oui, mais quand on apprend après le dessous des choses. Ou l'envers du décor, quand on voit, on dit, ah oui, c'est pas étonnant que ça fleurissait autant, mais un jour retombe, le fisc vous tombe dessus. Et il y en a pas, hein? Que de naufrages. Le Titanic. Hein, vous savez, ce bateau, il était réputé pour être insubmersible. C'est ça, hein, ouais. Alors, pour ne pas avoir entendu la voix ou l'appel des autres bateaux qui étaient aux alentours, ou qu'ils ont croisé sur leur route, à distance, bien sûr. Et ça les prévenait tout simplement qu'il y avait des icebergs qui étaient là, dans le coin ou dans le secteur où ils étaient. Eh bien, il va couler au bout de combien de voyages? Voyage inaugural, on appelle ça. Hein? L'insubmersible, ce qui faisait la fierté des hommes. Même Dieu ne peut pas le couler. Eh oui, vous comprenez? Ben, c'est un iceberg qui s'est chargé de le couler. Un glaçon. Bon, un gros glaçon, hein. Eh oui. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ils n'ont pas voulu entendre quand on leur disait faites attention, soyez prudents. voyez, c'est quelque part Dieu veut rendre notre conscience sensible à sa voix. Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Que si, par exemple, une personne continue à vivre dans la débauche, un jour ou l'autre, ça va y retomber dessus. Si une personne boit plus qu'elle ne devrait, fume plus qu'elle ne devrait et autres, elle détruit sa santé. Un jour ou l'autre, le diagnostic, il tombe. Vous voyez un petit peu ? Alors, il veut nous révéler avec vérité, je dirais, toute situation telle qu'elle est, pour que justement nous puissions corriger le cap afin d'éviter les icebergs, les récifs. Vous voyez un petit peu, afin de ne pas avoir une vie ensuite brisée et coulée à pic, bien sûr. Alors l'Écriture nous dit que celui qui fait la volonté de Dieu, simplement qui écoute sa parole et qui la met en pratique, c'est ça que ça veut dire, eh bien c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Amen. Et ce roc, ce rocher, si vous préférez, il porte le nom de Jésus. Amen. Jésus, c'est celui que Dieu nous a donné. C'est le cadeau qu'il nous a fait. Alléluia. Jésus dira aussi aux envoyés de Jean-Baptiste, les morts ressuscitent. Eh oui. Un jour, Jésus, avec ses disciples, vont croiser un bien étrange cortège. C'est une mère veuve qui allait enterrer maintenant celui sur qui elle avait reporté toute son affection, son unique, son fils, qui était mort. Alors ce cortège de la mort, quelque part, moi j'appréciais ça comme cela, eh bien il croisait le cortège de la vie. Amen. Puisse votre vie croiser la vie de Jésus, si ce n'est pas encore fait. Amen. Et là, au grand étonnement de tous, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va ramener à la vie ce fils. C'est-à-dire qu'il va rendre la vie tout simplement à ce corps mort. Il va rendre ce fils à cette mère éplorée, veuve déjà seule par rapport à son mari, mais là en plus, toute seule, sans ce fils, sans celui qui, quelque part, était là pour aller recevoir l'amour de cette maman et en donner, bien sûr. Mais Jésus n'est-il pas appelé le prince de la vie? Eh oui. N'a-t-il pas également ressuscité Lazare? Eh oui. Et il l'a fait. Hein? Alors, je ne sais pas à quoi ressemble votre vie, si elle semble morte, sans espérance, si vous êtes déçu de tout, hein, si en vous également viennent de mauvaises pensées, parce que bien dans ce monde, il y a des mauvaises pensées, eh bien Jésus est celui qui veut croiser justement votre route pour vous apporter justement une espérance nouvelle. Amen. Une espérance nouvelle. Sa mort sur la croix, mais aussi sa résurrection, la Bible nous dit que c'est ça qui nous ouvre les portes du ciel. Jésus est mort pour nous. Il s'est chargé de nos péchés, il a pris la malédiction qui nous revenait. Il a été déposé au tombeau, oui. Mais lors du troisième jour, le tombeau est vide, il est vivant. Amen. Mais il y a plus que la mort. Il y a aussi, je dirais, après la mort. S'il y a eu un jour la mort d'un innocent sur une croix infâme, dont Jésus, c'est pour que nous, les hommes et les femmes, nous puissions vivre. Non seulement cette vie ici-bas, mais également que nous possédions, tout simplement, l'espérance de la vie éternelle. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure à cet homme. L'important, c'est de savoir qu'on est sauvé. Ça l'a fait fuir, bien dommage pour lui, parce qu'il aurait pu venir à cette réunion d'évangélisation, où, eh bien, il va se passer quelque chose de magnifique, c'est qu'il y a eu 7 baptêmes dans le Saint-Esprit, en plein après-midi d'évangélisation. Eh oui, le mien, entre autres. et d'autres. Hein? 13 ou 7? Moi, je croyais 7. C'est bien, 7, ça veut Dieu, chiffre de Dieu. Hein. C'est 13, alors. Ouais, peut-être. Il y avait un garçon de 14 ans baptisé, ses parents qui attendaient depuis plus de 20 ans. Tous a été baptisé en même temps dans la maison. C'était beau. Dans une grotte. C'était à Digne-les-Bains. La vieille église, hein, dans la grotte. Voilà. C'était là. Eh oui. Alors, Jésus a déclaré, je suis la résurrection et la vie. Amen. C'est-à-dire que quand on est attaché à Jésus, quand on vit avec lui dans la vie, dans le cœur, quand on vit pour lui, eh bien on est comme lui. Il est la résurrection et la vie. Amen. Jésus finit en disant, l'évangile est annoncé aux pauvres. Le sermon sur la montagne, les béatitudes. Hein, voilà. Il est dit, entre autres, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, il ne s'agit pas ici des pauvres dans le sens de financier, matériel, de l'argent, bien sûr, mais ceux qui, je dirais, dans leur vie intérieure, d'abord veulent rester simples, mais veulent également rechercher un idéal spirituel. Amen. On ne peut pas vivre sans, quelque part, s'attacher à quelque chose intérieurement. On a besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. J'ai choisi Jésus, le rocher des âges. Jésus, c'est l'image du rocher qui suivait Israël partout. Hein, Israël était abreuvé parce que le rocher a donné de l'eau, etc. Mais c'est cela. Alors, pour réussir sa vie, quelque part, il faut venir tout simplement aux sources de la vie. Amen. À cette source qui désaltère, alléluia, quelque part à Dieu lui-même, à l'évangile, cette bonne nouvelle, amen, à Jésus, lui qui va dire le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, amen, non pas qu'il faille tout renverser ici, mais c'est celui qui va se faire violence en disant je sais que c'est mal, eh bien je ne vais pas le faire. Tout le monde le fait, mais moi je ne peux pas et je ne vais pas le faire. Parce que quelque part, je veux que Dieu me bénisse. Je veux que Dieu m'aide. Je veux que Dieu me secoure. Alléluia. Alors, ce qu'il faut faire cet après-midi, c'est simplement saisir cette bonne nouvelle, la prendre pour soi-même. Et à partir de là, eh bien, la Bible nous dit qu'on devient, on fait partie des gens les plus heureux de la terre. On est parmi les gens les plus riches. Amen. Parce qu'on a trouvé la perle de grand prix. On a trouvé le trésor et maintenant il nous appartient. Amen. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Il est celui qui est venu et il est celui qui va revenir. Amen. Il va revenir chercher tout simplement ceux et celles, eh bien, qui lui auront confié leur vie, ceux et celles qui justement auront choisi de dire « Non, je ne veux plus faire ces choses mal. Non, je ne vais plus mentir. Non, je ne vais plus tricher. Non, je ne vais plus vivre comme cela, mais je vais vivre d'une manière honnête parce que je veux plaire à Dieu. Amen. Et tu seras le plus heureux ou la plus heureuse des hommes ou des femmes. Amen. Gloire à Dieu. On ferme nos yeux.